France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Hi, Dad.
Oh, notre petite française.
Tu sais, j'ai découvert une délicieuse cookie presque aussi bonne que celle de maman.
Hello, Delou.
Hello. It's Kate. She says hello.
Hello, Kate.
Qui de nous deux fait les meilleurs cookies? On est prêts pour la cookie party?
Oui.
C'est rigolo après de les manger. Et en plus, ils sont bons.
Le cookie cru a un parfum d'enfance.
Prenez un cookie. Mangez-le, je vous promets que ça ira beaucoup mieux. Et vous retrouverez le sourire.
Cookie, 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 start with Z.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui Anatomie d'un biscuit phénomène, tellement apprécié en France qu'on en oublierait presque ses origines américaines. C'est le cookie, il est partout, de l'univers des fast-foods aux boulangeries les plus artisanales, en passant par les grands restaurants, les enseignes monomaniaques entièrement consacrées à ce biscuit, et évidemment, les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a droit à son emoji, vous le savez, et le hashtag cookies au pluriel rassemble pas loin de 40 millions d'occurrences. Il y a justement un cookie qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux, c'est celui de Maëva Manchon et Charles Yé. Bonjour.
Bonjour. Hello. À tous.
Ça va les amis?
Ouais, très bien. Super.
Vous êtes le couple à la tête d'Union, une boulangerie-pâtisserie de quartier située, vous nous en rappelez l'adresse?
Aux 2 rue Bleue dans le 9e arrondissement.
Et vous proposez un cookie qui est devenu un peu le best-seller de votre boutique, mais aussi un véritable buzz. On vient vraiment déguster votre cookie, il est excellent, vous allez nous le faire découvrir. Quelle est votre définition du cookie? Comment vous le cuisinez aussi à la maison? Vous nous proposez des adresses et des recettes surtout. On va en parler ensemble. Quelles sont les origines et l'histoire de ce biscuit? Comment est-il devenu un totem sucré au succès planétaire? Notre historien maison, Loïc Bienassi, a enquêté pour nous. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Bilan des courses.
Bilan des courses, France Inter a affrété un avion pour que je traverse l'Atlantique. Je suis allé au Massachusetts et je reviens avec beaucoup d'informations.
Bon, déjà, on sait que il y a déjà une origine américaine qui est avérée.
Premier indice,
absolument. Et puis, attention, événement dans cette émission, nous avons réalisé cette semaine un banc d'essai pour élire les meilleurs cookies de France en partenariat avec Très Très Bon, l'émission gastronomique que j'anime sur Paris Première. Ce palmarès est d'ores et déjà dispo sur notre site internet. Elles sont en notre compagnie pendant toute l'émission, notre reportrice Zazie Tavitian, notre chef Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Zazie.
Alors moi, France Inter n'a pas apprêté d'avion, mais j'ai eu le droit de prendre le train pour aller en Loire-Atlantique faire de la glace. Mais de la glace aux cookies, évidemment.
Et le défi technique, c'est qu'elle est ici, cette glace, et qu'on va la déguster en direct dans le studio 611 de la Maison de la Radio. Manon.
Quant à moi, je me suis essayée à une version de cookies de saison et salée.
Et salée. Alors là, ça va être une sacrée surprise. Et cher Manon, on vous adresse au nom de l'émission On va déguster toutes nos sincères félicitations pour cette magnifique étoile au guide Michelin.
Merci.
Amplement méritée après 6 mois seulement d'ouverture, que vous êtes allé chercher à Tours lors de la cérémonie du guide Michelin lundi dernier, qui vient récompenser évidemment Datil, votre restaurant qui fait de plus en plus de bruit, votre excellent restaurant situé
au 13 rue des Gravilliers.
13 rue des Gravilliers. Bon, ils ont juste oublié l'étoile verte. Hein. Ça,
ils
c'est mon,
oublié,
c'est mon commentaire de journaliste gastronomique. L'étoile verte récompense la gastronomie éco-responsable. J'ai rarement vu une démarche aussi vertueuse et engagée que celle de Manon Fleury et son équipe.
Je sais pas quels sont les critères, donc il paraît qu'il faut avoir un jardin aujourd'hui.
Ah,
donc,
c'est peut-être ça,
peut-être
d'accord.
C'est ça.
En tout cas, étoile Michelin, bravo, bravo Manon. Envoyez-nous vos questions, vos recettes, vos souvenirs gourmands autour du cookie sur notre mail on va déguster à radiofrance.com et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et vous retrouvez aussi nos émissions en ligne avec leur contenu, adresses, chroniques, recettes, infos pratiques, podcasts. Ça, c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Il était temps de consacrer une émission entière aux cookies. Cette fièvre du cookie touche tout le monde, de 7 à 77 ans, et s'empare même, vous allez voir, de la Maison de la Radio. Dans les équipes de France Inter, on a identifié une véritable cook addict. Vous la connaissez, Zazie?
Oui, je la connais, mais je ne connaissais pas sa passion pour le cookie, elle me l'a cachée.
Eh bien oui, elle fait son cooking out, absolument. Elle s'appelle Juliette Acus. Elle est conseillère au programme et le cookie, c'est toute sa vie, ou presque.
En fait, un jour, j'en ai mangé un et je me suis dit « Ah, mais je crois que c'est le meilleur cookie que j'ai mangé dans ma vie. »
c'était le cookie de la boulangerie Mamiche. Et j'étais avec un pote et il m'a dit, mais moi aussi, je crois. Et si on essayait de trouver le meilleur cookie de Paris? Donc en fait, on va acheter un cookie dans une autre boulangerie et on se dit, est-ce qu'il est meilleur ou pas que celui de Mamiche? Ça a été notre barème un peu. Et un deuxième qui m'avait marqué, c'était le cookie de chez Farmers. C'est un café, boulangerie, un peu pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai été l'acheter pour toi ce matin. Bah ouais, trop bon. En fait, tu sens vraiment le chocolat qui a fondu, redurci un peu, mais pas tout à fait.
Délicieux.
C'est comme ça que tu l'aimes?
Très gourmand, ouais.
Et si tu veux que je te raconte tout, du coup, vu que j'en teste plein, j'ai une petite liste dans mes notes de téléphone.
Ah, t'as un dossier cookie?
Ouais.
Farmer, qu'est-ce que t'as noté?
J'ai mis quasi cru à l'intérieur, moelleux et craquant, trop bon, pas très esthétique, mais on peut le choisir. Après, j'ai Mamiche, trop bon, moelleux, petit goût salé. Attends, mais tu reçois...
Union.
Ouais, je les ai. Gros et épais, très bon chocolat, pointe de sel, très moelleux et de la mâche. Donc il y a une très bonne note, celui d'Union.
Bon, bah on a fait un bon casting alors pour notre émission?
Ouais, je crois carrément. Tu vois, il y en a où j'ai été trop méchante, j'ai juste marqué trop sec ou trop cher.
Hashtag passion cookie?
Une époque, dans mes recherches Instagram, il n'y avait que des cookies et Daniel Craig, parce que j'avais une obsession à l'époque pour Daniel Craig.
Donc ton rêve absolu, c'est de manger un cookie avec Daniel Craig?
C'est quand tu veux.
Voilà, Juliette Acu, c'est sa passion du cookie. Vous êtes contents, Charles et Maëva, d'être cités dans la cooking list de Juliette Acu?
On est très contents, on est très fiers et honorés d'être dans cette liste.
En même temps, c'est pas la seule. Hein.
C'est vrai.
Votre cookie est devenu un phénomène.
Ouais.
On peut même dire qu'il y a des acharnés du cookie, ES et EES, qui font la queue à une heure très très précise chez Union.
Ouais. À 14h10, en fait, on a une deuxième fournée qui sort. Et c'est une dinguerie. Les gens, ils font la queue, ils attendent. Parfois, on est un peu en retard, donc ça arrive. Et les gens attendent et ils mangent leurs cookies dès qu'ils sortent de la boulangerie. Parfois même à la cuillère, tellement il est chaud.
Donc, ouais, c'est vraiment. Il a même pas le temps de durcir qu'il le mange déjà.
Vous avez combien de cookies? Deux toute l'année?
On a deux toute l'année et de temps en temps, on en fait des éphémères. Mais nos deux principaux, c'est chocolat et chocolat avec des noisettes entières.
Et vous êtes particulièrement généreux, hein, Charles, parce que je crois qu'il y a quand même un poids de 150 grammes.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais. C'est énorme.
On les a sous les yeux. C'est des véritables montagnes, en fait, des rochers.
Ouais. On peut dire ça.
On a fait le choix de faire un format vraiment type US.
Ouais.
Parce qu'en France, je sais que ça tourne souvent autour de 90 grammes, 100 grammes. Mais c'est vrai que quand on va aux États-Unis, c'est des cookies qu'on peut pas manger en une seule fois, quoi. C'est des trucs qu'on laisse dans son sac. Le sachet, il est complètement imbibé de grammes et on finit par le manger à 18h40 chez soi. Donc, c'était l'esprit qu'on voulait. Un cookie généreux, typé US, quoi. Comme son origine.
On va le goûter évidemment ensemble. Moi, je l'ai déjà goûté. Je peux vous assurer qu'il est absolument délicieux avec sa petite pointe de sel. D'ailleurs, c'est Juliette Acu qui le spécifie. Et en plus, vous faites un véritable effort en termes de prix. Parce qu'il faut bien le dire, le cookie est aussi devenu un véritable business. Il y a certains cookies qui montent à 6 euros, comme chez La Durée, par exemple. Alors, il est très bon, hein, celui de La Durée, mais c'est quand même 6 euros pour un poids qui est nettement inférieur au vôtre. Et surtout, il est beaucoup plus facile à faire qu'une viennoiserie, qu'un croissant par exemple, pour un prix parfois trois fois plus cher.
Oui, tout à fait. En fait, on a décidé de rester accessible à tous pour que tout le monde puisse venir tous les jours acheter un cookie. Donc nous, on se situe à 3,20€ pour le chocolat et à 3,50€ pour le chocolat noisette, qui sont des prix tout à fait accessibles pour tous.
Mais ceci dit, le cookie, c'est pas forcément un produit bon marché, parce que les ingrédients sont quand même assez coûteux, on a pas mal de beurre. Les chocolats, en fonction de la qualité qu'on prend, ça peut être aussi très cher. Pas mal d'œufs.
Et vous travaillez en plus des matières premières de qualité?
Exactement, on est sur des œufs fermiers, lait entier, enfin voilà. Derrière, c'est pas des produits. Moi, quand je vois un cookie assez cher, je leur en veux pas. Derrière, je sais pas quel chocolat ils utilisent, si c'est un grand cru ou un chocolat plutôt banal. Mais ça peut monter assez vite. Je pense qu'on peut justifier un cookie jusqu'à 5 euros. Au-delà, c'est peut-être un petit peu cher, effectivement.
Et vous êtes
à 3,20€.
3,20€.
3,50€.
Ce qui est quand même largement raisonnable. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table dont on va déguster de ce cookie un peu rocher, très généreux en chocolat? Loïc, la bouche pleine.
Oui, merci beaucoup. Oui, dans le chocolat bien fondant, croquant à l'extérieur et beaucoup de tendreté, on dira, à l'intérieur. Il y a vraiment ce contraste. Bon, bah, il est colossal, donc on va pas tout manger, mais bon, avec un petit, petit effort.
Je vous fais confiance pour en venir à bout.
Moi, je trouve ça fou que vous mettiez carrément les noisettes entières. Je crois que j'ai jamais vu un cookie. Normalement, on voit parfois des fruits secs qui sont concassés. Là, on voit la noisette. J'ai coupé le cookie en deux. Mm-hmm. Et on voit la noisette entière à l'intérieur. Donc, c'est hyper généreux. Et en même temps, il y a vraiment le côté. Un fruit sec qu'on peut manger entier, donc c'est hyper intéressant.
C'est ça, on voulait vraiment garder de la mâche pour éviter que le cookie soit vraiment très plat.
Oui, ça fait contraste, en fait.
C'est ça.
Manon, vas-y.
J'ai déjà goûté les deux. Il a côté, celui qui est juste chocolat, il a aussi ce côté de pâte un peu, pas cru, mais qui est presque cru, ce que j'aime bien aussi dans les cookies, quoi, le croustillant autour et la pâte...
Vous l'avez lâché. Il y a un adjectif anglais qui est beaucoup utilisé dans les commentaires de dégustation des cookies. C'est chewy qui a donné chewing gum évidemment. Ouais. C'est ce côté légèrement élastique, caoutchouteux, rebondissant. C'est entre le moelleux et le fondant quoi.
C'est ça. C'est
fondant
pile.
Presque même. On peut l'utiliser pour gluant aussi.
Voilà, donc sticky.
Exactement.
Mmh. Chewy.
Donc c'est des adjectifs en France qui sont plutôt péjoratifs quand on dit un truc est caoutchouteux ou c'est pas très bon. Aux États-Unis, il y a aussi le soggy qui est un peu humide, mais c'est ce qu'on cherche beaucoup dans un cheesecake. Sauf qu'en France, forcément, si je dis mon cookie il est gluant, enfin, ça donne pas du tout envie. Mais en réalité, c'est super agréable et je pense que c'est des textures à explorer plus encore.
On va rentrer dans le détail de l'aventure du cookie et votre aventure autour du cookie, car elle mérite d'être racontée. Votre recette aussi. Vous révélez deux recettes fabuleuses avec deux écoles de cookies. D'ailleurs, la recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Union, votre boulangerie, pâtisserie du 9e arrondissement de Paris, ainsi que Farmers, évidemment, l'adresse recommandée par Juliette Accus, figure en bonne place dans le vaste banc d'essais cookies que nous avons réalisé cette semaine, mardi dernier, avec notre bande d'On va déguster l'émission très très bon sur Paris Première. Nous avons testé 116 cookies artisanaux provenant de Paris et de toute la France et nous avons retenu 25 adresses à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, car la folie cookie en France est loin de n'être que parisienne. Et parmi toutes ces adresses, nous avons élu 11 coups de cœur dans toute la France. Ce banc d'essais est à consulter dès toute urgence sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et on a notamment apprécié, dans notre sélection, une tendance très intéressante vers ce qu'on pourrait appeler un cookie de terroir, avec de bons produits à l'intérieur. Souvent, le cookie, on va voir avec Loïc qu'il a été, non pas kidnappé par l'industrie, mais qu'en tout cas, il y a une origine aussi industrielle, et que par ailleurs, parfois le cookie navigue dans la sphère de la junk food. Et bien là, il existe par exemple le cookie de la jeune pâtissière Clara Delettré, une jeune fille qui produit dans son atelier de Rennes en Bretagne depuis un an d'irrésistibles cookies à partir de farine de blé et de sarrasin local et bio, du beurre de micelle fermier, des œufs de plein air, voilà, des cookies qui se commandent en ligne et qui sont expédiés dans toute la France. Ça s'appelle Cookies avec ZH à la fin pour faire un peu breton. Évidemment, on n'est pas infaillible, on a pu oublier des cookies, donc n'hésitez surtout pas à nous signaler d'excellents cookies artisanaux ailleurs en France et nous ferons un plaisir de les déguster derrière la console pour cuisiner cette émission en direct. Laurent Thomas, Jérôme Ragano, Fabrice Rivaud, le cookie sous toutes les coutures, juste après You Got It and I Need It de l'artiste américain Robert Finlay, choisi par Djoubaka, la folie cookie sur France Inter.
Shortchanged, baby, 'cause daddy packing a lot.
Entre les plats et les épais, les croquants et les mous, ceux aux pépites au chocolat et ceux au peanut butter et plein d'autres garnitures, entre les cookies artisanaux et les industriels, le cookie, c'est le moins que l'on puisse dire, est versatile, transformiste, changeant. Les réalités du cookie sont aujourd'hui en effet très diversifiées aux États-Unis, sa patrie d'origine, mais également en France et dans le monde entier. Comment définir un cookie aujourd'hui? C'est presque mission impossible, Loïc Bianassi.
Alors c'est un peu mission impossible, alors... Je vais faire la définition, je vais avoir recours à la définition officielle, on va dire. Code d'usage...
Vous cachez derrière la réglementation.
Absolument. Code d'usage du syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France. Le cookie est un petit biscuit. Il est le plus souvent sablé
enfin, petit,
et agrémenté...
Petit, ça reste à prouver. Hein.
Pardon ?
Petit, justement, ça
oui,
reste à prouver.
Bah, et sablé, ça reste à prouver aussi. Et il est le plus souvent sablé et agrémenté de divers ingrédients. Pépites de chocolat, noisettes, noix de pécan. Les ingrédients du cookie sont la farine, les œufs, les matières sucrantes et les matières grasses. Donc on peut retenir, généralement sablé, avec des ingrédients insérés, on va dire. Mais... peut-être aussi dans les représentations généralement ronds, quand même. On a quand même cette idée d'un cookie rond. Alors, origine américaine, le mot, hein, évidemment. Le mot, alors d'ailleurs, on lui prête une racine hollandaise. Je ne vais pas me lancer dans le mot hollandais d'origine. Mais le petit piège linguistique, c'est que, en fait, en anglais, on dirait biscuit. C'est de l'anglais américain, cookie, pour dire, en fait, biscuit sec. Et en français, j'ai presque envie de dire, ça, c'est quasiment un nouveau sens, parce que... ce que les Français appellent cookies, à l'origine, c'est ce que les Américains appelleraient les chocolate chip cookies. C'est-à-dire ces cookies avec des inserts de chocolat. Et puis ensuite, il y a eu diversification. On a mis différents ingrédients à la place, tous les dérivés, je dirais.
Chocolate chips cookies, c'est vraiment la recette originale, originelle, traditionnelle,
c'est
avec
ça,
les pépites de chocolat.
Voilà. Alors, il y avait des cookies avant aux États-Unis, avant celui-là, mais c'est un peu l'institution. C'est la grande institution américaine. Enfin, c'est le cookie par excellence, je dirais. On voit que, par exemple, il y a eu un sondage en 2023 aux États-Unis. Et ce cookie aux pépites de chocolat, ça reste auprès de 5000 personnes, hein, 5000 Américains, c'est-à-dire 100 Américains par État, ça couvrait tous les États-Unis. 62% des Américains estiment que c'est leur cookie préféré. C'est aussi le cookie préparé par maman, souvent. Donc c'est évidemment un produit industriel, d'un côté, mais c'est aussi, ça renvoie à tout ce cookie baigné d'amour préparé par maman lorsqu'on va au match de baseball, je suppose. Il y a tout cet imaginaire familial, quoi.
Il remonterait à quand aux États-Unis dans l'histoire de la littérature américaine, de sa cuisine, quelle serait, il faut remonter à quelle période?
Alors, entre deux guerres, en fait. Alors, c'est d'une certaine façon, on a l'inventrice officielle du cookie, alors du chocolate chip cookies, parce que c'est quand même ça dont on parle, c'est une certaine Ruth Wakefield. Elle s'installe avec son mari dans une auberge dans le Massachusetts, voilà, d'où l'avion, hein. en 1930, ouverture de cette auberge. Alors, on lit un peu partout que c'est par accident, j'allais dire comme d'habitude, qu'elle a inventé ce cookie, exactement, puisqu'elle manquait, alors elle a dû renverser parce qu'elle n'avait plus ce qu'il lui fallait pour préparer son cookie, et tout d'un coup elle a renversé des pépites de chocolat, et elle pensait que ça allait fondre, enfin voilà, bref, il y a différents types de scénarios, et serait ainsi apparu ce cookie si américain. Bon, c'est sans doute pas le cas en réalité, parce que c'était une cuisinière avertie. Elle était réputée pour ses desserts, son établissement avait été très coté. Et ce qu'on peut dire, c'est que la date, on la connaît pas, mais la première fois que la recette de chocolate chip cookie figure dans un ouvrage, écrit par elle, c'est 1938. Là, on a cette recette. Alors, deux précisions quand même, on peut supposer. Ça avait déjà été inventé avant, autour du cookie, mettre des pépites de chocolat, ça paraît tout à fait logique, il y a différents indices qui vont en ce sens. Et ensuite, oui, j'insiste, c'est pas un accident, clairement. Elle préparait des recettes, c'était au contraire, et elle le dit dans une interview dans les années 70, non, je l'ai pas fait, c'était volontaire, c'était pensé, c'était calculé. Donc en tout cas, à partir de ce moment-là, le chocolate chip cookies rentre dans le paysage culinaire américain à la fin des années 30. Le succès est très rapide.
Et on verra un peu plus tard avec vous comment ce cookie s'est acclimaté en France et est devenu une véritable passion dans notre pays. Maëva et Charles, vous avez tous les deux 30 ans. Votre très belle aventure d'union, votre boulangerie-pâtisserie de quartier est le fruit d'une reconversion. Vous êtes allé assez loin dans les études. Master en neurobiologie pour vous, Maëva ?
Ouais, tout à fait.
Waouh, Charles, vous avez fait des études de commerce ?
Ouais, de finance, ouais, exactement.
Et vous avez ensemble bâti ce projet ?
avec l'idée évidemment de proposer un pain de grande qualité, de la viennoiserie artisanale, des pâtisseries de saison, et l'idée du cookie s'est imposée dès le départ. Alors, vous entendiez parler, Loïc, des États-Unis, vous y avez fait un voyage pour frotter vos papilles justement à plein d'expériences et beaucoup de cookies justement, Maëva.
Tout à fait, on a passé pas mal de temps aux États-Unis, que ce soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Et le cookie qui nous avait le plus marqué, c'était celui de chez Levain à New York.
Levain Bakery, voilà, c'était la ref.
Et la première bouchée, on se dit « waouh ».
C'était un ovni, c'était quelque chose d'inattendu.
Et d'autant plus inattendu qu'il l'est aussi par sa forme.
Ouais.
On n'était pas dans l'école du cookie plat avec les bords croustillants, mais plutôt dans la forme rocher qui est un peu votre école.
Tout à fait. En fait, on s'est dit, mais c'est un truc de malade, parce qu'il y a et du croustillant, et de la mâche, et vraiment beaucoup de texture en bouche. Et on s'est dit, mais c'est un truc de fou. Et en fait, là où on a poussé la recherche un tout petit peu plus loin, c'est qu'on s'est versé un verre de lait le soir en rentrant à l'hôtel, et on s'est dit, oh, waouh, ça c'est un truc de malade, et il faut absolument qu'on arrive à refaire la recette. Et là, on s'est lancé dans une big aventure. À l'époque, on avait un tout petit appartement avec une cuisine qui faisait presque 2 mètres carrés. Même pas, je pense.
Une kitchenette.
Vraiment une kitchenette.
La kitchenette parisienne.
Et on a fait pas loin de 30 essais pour arriver au résultat actuel. Donc nos potes ont pas mal mangé de cookies pendant...
Donc ça veut dire que les essais, c'était vous jouiez sur les proportions, les garnitures, parce qu'il y a une série de règles qui entourent évidemment la préparation d'un cookie, notamment l'amalgame, le repos, la cuisson. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer évidemment.
Exactement,
Charles.
Ouais. Après, Maëva sera plus à même d'en parler parce que c'est elle qui les a fait. Mais oui, il y a beaucoup d'étapes très techniques quand même, notamment tout ce qui est pétrissage de la pâte. Mm-hmm. Pas trop, pas assez. La cuisson, le format. L'ordre des ingrédients aussi.
C'est ça. En fait, c'est surtout la proportion farine, sucre et beurre qui joue. Aujourd'hui, nous, on a décidé de se placer sur un cookie très fat.
Bien beurré.
Et bien beurré. Mais en fait, le cookie, ce qui est chouette dans un développement de recette, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Et c'est vraiment quelque chose où on peut vraiment créer son cookie goal. Parce que, en fait, nous, on a créé notre cookie parce qu'on avait aimé celui de chez Levain. Mais on peut très bien aimer un cookie un peu plus plat et créer autre chose autour de ça.
Manon Floy.
Est-ce qu'il y a une règle sur le rapport, notamment beurre, sucre, farine, pour se dire qu'on a...
Et eux aussi.
Et eux, pour arriver à avoir ce fondant et en même temps ce croustillant quand on met un cookie au four. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une règle qu'on peut atteindre dans les proportions ou pas du tout? C'est plutôt dans un truc assez empirique où on va arriver à cette texture-là
Alors, je dirais que c'est un peu des deux. En vrai, si tu veux un cookie vraiment beaucoup plus épais, tu vas mettre un peu plus de farine. Par rapport à la proportion de beurre. Mais par exemple, si tu veux un cookie beaucoup plus plat, tu peux faire fondre ton beurre. Tu peux même le faire roussir pour avoir ce côté un peu plus caramélisé. En fait, tu peux t'amuser à l'infini avec un cookie.
Ça veut dire qu'il va s'évanouir un peu plus facilement à la cuisson et devenir plat.
Il va vraiment s'étaler de manière très large.
Parce qu'alors, on va le voir, il y a beaucoup de règles. Le mieux, c'est peut-être qu'on entre dans le détail de votre recette. Il s'appelle Cookie Chocolate Very Chunky. Évidemment, il y a beaucoup d'anglicisme. Pardon, auditeurs et auditrices. C'est une émission sur le cookie, avec une influence directement américaine, bien entendu. Comment on s'y prend? Allons-y. Ils sont très beaux, le résultat est tout à fait étonnant. Il y a Loïc qui est en train de tout boulotter, évidemment.
Je me restreins, alors.
Un cookie au chocolat, classique.
Voilà. Un cookie au chocolat,
mais avec du relief.
Exactement. En fait, un cookie, c'est toujours les mêmes étapes dans le même ordre. C'est-à-dire que tu vas toujours mettre ton beurre et ton sucre d'abord dans ton pétrin. Ensuite, tu vas mettre toutes tes farines, tes œufs, et ensuite tu vas mettre ta garniture. Donc ton chocolat, tes fruits secs, et tu peux vraiment t'amuser, raisin. Il n'y a pas de tabou dans le cookie.
Levure chimique ou bicarbonate de soude, ça, c'est systématique dans un cookie.
C'est systématique.
Ça contribue aussi à la texture?
Exactement. En fait, le bicarbonate, ça va donner ce côté très moelleux au cookie ou même dans d'autres pâtisseries. On l'utilise assez régulièrement dans tous nos produits de pâtisserie chez Union.
pour 10 cookies, 50 grammes d'œufs, un jaune d'œuf, 100 grammes de sucre semoule, 100 grammes de cassonade. Vous mélangez les sucres, c'est intéressant.
Ouais,
pour des questions de couleur, de texture, de goût.
De goût. Mmh. De goût, parce qu'en fait, si tu mets que du sucre semoule, ça n'a pas vraiment de relief. Alors que si tu mets un peu de cassonade, ça amène ce côté un peu caramélisé qu'on cherche vraiment dans un cookie. Et c'est surtout, ça va aider à la caramélisation du bord du cookie. Et ça, c'est très important.
Très important, la caramélisation du bord du cookie. On a compris donc qu'il y a à part égale deux sucres, le sucre semoule blanc et le cassonade, qu'on peut remplacer, j'imagine, par un sucre complet comme le muscovado ou un sucre brésilien.
Ouais.
160 grammes de beurre, alors beurre doux, 340 grammes de farine, il y a de la levure chimique, on le disait, évidemment, du chocolat, il y en a 215 grammes. Et puis, on disait beurre doux, mais l'importance de la fleur de sel, Charles, vous me disiez quelque chose d'intéressant en préparant cette émission, c'est que le sel, vous le considérez en fait comme un exhausteur de goût?
C'est ça, tout à fait, ouais. Nous, on en met un petit peu partout dans nos pâtisseries. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, une pâtisserie, c'est sucré. Et finalement, le sel, c'est un kick, c'est un exhausteur de goût. On peut en mettre partout. Nous, on a par exemple dans nos pâtisseries les pralinés qui sont sursalés et au point où quand on le mange comme ça, c'est pas vraiment mangeable.
Ça pétille en bouche.
Mais ça pétille en bouche, ça apporte du relief, ça casse le sucre, le gras, c'est moins lourd, alors que la recette est très lourde caloriquement. Mm-hmm. Mais en gros, ouais, la pilule passe mieux, quoi.
Très bien, vous nous avez donc expliqué l'ordre de mélange, hein, un peu à l'américaine, les ingrédients secs que l'on rajoute après ensemble, etc. Faire tourner, amalgamer, là aussi ça a une influence sur la texture finale du cookie.
Tout à fait, en fait, plus on va pétrir.
Mélanger,
un cookie,
le mélange.
Plus on va pétrir un cookie, plus le beurre va chauffer et donc plus le cookie sera plat ensuite. Donc si on veut un cookie bien chunky, pas trop de mélange, il faut juste que la pâte soit juste homogène.
Et le repos de la pâte est important?
Tout à fait.
Parce que moi, Zazie, en préparant cette émission, m'a dit qu'elle aimait tellement les cookies que quand elle en faisait, elle voulait les manger direct et les faire cuire. Mais qu'elle n'avait pas le temps de les laisser reposer 24 heures.
Quand on a l'idée de manger un cookie, généralement, c'est pas « Tiens, je mangerai bien un cookie dans 2 jours. » Dans 20 minutes.
Bon, on a affaire à deux professionnels quand même. Et c'est vrai que le repos participe à quoi? Contribue à la symbiose des ingrédients, j'imagine.
En fait, quand tu as une pâte qui est froide, déjà, le beurre va être infusé de tous les autres ingrédients. Et ensuite, ça va éviter qu'il devienne trop, trop plat et qu'on ait un cookie géant sur notre plaque. En fait, souvent...
Il faut aussi le raffermir au frais, c'est ça?
C'est ça. On est obligé soit une nuit au frigo, soit 2 heures au congélateur. Et après, on met nos boules de cookies, petite fleur de sel, au four, terminé.
Et oui, parce qu'un cookie se boule.
Oui. C'est ça. Donc un cookie se boule. On peut juste faire une boule ou faire une boule et un tout petit peu aplatir suivant nos goûts. Mais effectivement, ça se boule et ça se congèle, boulé ou ça se met boulé au frigo. Ne pas mettre de la pâte juste comme ça au frigo et la laisser refroidir.
Et ça se garde avant. Super bien au congélateur. Donc pour les auditeurs qui veulent essayer...
C'est ça la solution, Zazie.
Voilà. On peut en faire 15 ou 20.
Pour les envies nocturnes.
Et sachant que la pâte, on peut la manger... Moi, j'adore manger la pâte crue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour savoir si...
Le cookie dough.
Exactement.
Ouais, le cookie
dough. On peut la manger comme ça.
D-A-U-G-H, hein, c'est un mot anglais qui veut dire pâte crue. Effectivement, ouais. Ça, c'est aussi une grande tendance. Et ce cookie, pour qu'il ait à peu près le même poids, on le boule avec une boule à glace ou on le pèse?
On le pèse. Okay. Ouais. On le pèse. Nous, on fait ça à la diviseuse à la boutique. Donc pratique, mais à la maison, on pèse tranquillement, plus ou moins 10 grammes, on reste tranquillou, quoi. Ça à la maison, c'est un produit convivial, donc c'est chouette.
Et la cuisson d'un cookie, il faut qu'elle soit douce ou faut qu'elle soit forte?
Ouais, ça dépend, si on veut qu'il soit chunky ou si on veut qu'il soit plat. Mm-hmm. Un cookie plat, ça se cuit à 175 pendant 13 et 15 minutes, allez. On va dire ça. Le mieux, c'est de sortir la plaque à 13 minutes, de la taper un tout petit peu pour que le cookie s'étale bien et à ensuite remettre au four 2 minutes pour qu'il continue de caraméliser. Et le cookie, le chunky, moi, je le cuis un peu plus fort et un peu plus longtemps pour qu'il soit bien, bien caramélisé sur les bords. Parce que c'est très, très important.
Ah, c'est ça qui est génial, le contraste de texture entre le côté craquant à l'extérieur, un peu chewy, un peu moelleux, presque cru à l'intérieur. Il est formidable, votre cookie. Vous en faites combien par jour chez Union, Charles?
On doit être pas loin de 300, je pense.
Deux fournées?
3.
Ouais, mais en réalité, on n'en fait pas plus parce qu'on peut pas plus.
Ouais. Et un petit secret à nos auditeurs, nos auditrices, on leur dit hein, 14h10. 14h10. Union de rue Bleue pour aller se le faire quasiment à la sortie du four. Et là, ouais, c'est une expérience avec le chocolat qui coule, j'imagine, assez grandiose. Il y a aussi la solution, et puis on passe évidemment à Manon Fleury, de le... Réchauffer. L'assouplir légèrement au micro-ondes, par exemple, ouais, c'est autorisé, ça?
Oui, 10 secondes, puissance max.
Voilà, et là, on obtient presque la sensation d'un textu, d'un cookie à la sortie du four.
Ouais.
Parfait.
Ah ouais.
Ça vous dit, un cookie salé?
Allez.
Allez.
Par une grande chef de la scène culinaire française?
Allez, ça me...
Je l'ai sous les yeux, ça donne...
Ça donne
très
vraiment
envie.
Très envie, j'ai trop hâte de goûter.
France Inter.
Et oui, on parlait de cookies salés. C'est la proposition presque contre-intuitive de notre chef cuisinière Manon Fleury.
Oui, cela n'est pas un secret que j'essaye de cacher. J'aime beaucoup les douceurs et comme beaucoup d'entre nous, je ne sais pas finir un repas sans une note sucrée. Vous trouverez donc tout mon adoration pour les cookies totalement sincère. Et en la matière, j'ai historiquement, et avant d'avoir goûté ce proposé aujourd'hui, deux favoris. Celui que réalise Marine Gora chez Graham, que je tiens en haute estime.
Et il est, figurez-vous Manon, la vie est bien faite, dans notre banc dessert.
Ça m'étonne pas. Et qui m'a sauvée de nombreuses fringales inopinées, et aussi parce qu'elle maîtrise à merveille l'équilibre entre les pépites de chocolat fondantes et la fleur de sel qui vient relever le tout. J'ai aussi, comme vous, un souvenir plus lointain mais tout aussi marquant, proposé par la pâtisserie new-yorkaise Levain.
Et oui, on y revient.
Lorsque je travaillais aux États-Unis. À chaque fois, les bons cookies réussissent à combiner avec générosité plusieurs couches de saveurs, avec à la clé cette sensation assez parfaite d'un coussin moelleux dont les reliefs seraient apportés par les noisettes et les amandes.
C'est bien dit.
La sensation de satiété et de totale gourmandise provoquée par ce qu'on pourrait appeler un envahissement des papilles est totale et assez unique. Une fois cette déclaration d'amour posée, j'ai voulu respecter ces icônes et ne pas chercher à faire mon cookie, car en la matière, suffisamment de très bonnes recettes existent. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de me risquer à vous proposer une translation du cookie dans la sphère salée.
Ouais.
J'ai pour celle-ci une inspiration qui est celle du chef Greg Marchand, qui depuis longtemps nous a régalé avec une trouvaille historique, son scone anglais salé, grâce à l'adjonction de bacon et de sirop d'érable. Cette petite bombe fait partie de l'arsenal de son restaurant Frenchie à Paris depuis longtemps et ne se démode absolument pas. Avec la chef du restaurant d'Attil, Lorraine, on a donc eu envie de s'amuser à imaginer un cookie salé qui se chargerait en complément de respecter la saison. D'où l'idée d'un cookie à l'asperge, au lard et au parmesan. Les asperges vertes et blanches viennent d'arriver et pour les cuisiniers, elles sont essentielles car elles occupent le rôle des premiers signes de printemps. On adore les voir dans nos cuisines car d'un coup, la saison nous semble là. J'ai un faible pour l'asperge blanche et son caractère si délicat et si doux qui rappelle presque une note sucrée. Mm-mm. D'où la réflexion autour du cookie. Et je trouve que le mariage entre l'asperge blanche et une note fumée fonctionne admirablement. Celle-ci peut être apportée par une viande comme du lard, mais aussi par une saucisse de morteau par exemple. C'est une association que j'adore car la relative fadeur de l'asperge me paraît se réveiller parfaitement avec les arômes fumés. Cela marche très bien et je vous conseille de le tester à la maison. Ensuite, pour rester dans un univers pâtissier, nous avons travaillé à parts égales avec des farines de sarrasin et de blé. Et nous avons réalisé une pâte à cookies classique avec 100 g de beurre pour 140 g de farine, donc 70 g de farine de sarrasin, 70 g de farine de blé, un œuf, un demi-sachet de levure. Et ensuite, il faut éplucher les asperges blanches et enlever la base de l'asperge qui est trop fibreuse à l'aide d'un petit couteau, puis les tailler en tout petits dés. On enlève les ventelles quend sur la poitrine fumée, on enlève la croûte de parmesan et on taille le tout en petits dés aussi. On fait sauter les lardons pendant 5 minutes dans le gras avant d'ajouter les dés d'asperges et les faire revenir pendant 5 minutes avec les lardons qui s'enrobent de ce gras. Il faudra ensuite bien laisser refroidir ces ingrédients avant de les ajouter bien froid à la pâte. On met ensuite la pâte obtenu au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes, mais l'idéal, c'est une nuit, avant de les détailler en rondelles de 2 cm d'épaisseur, environ 50 g, et de les faire cuire 9 minutes à 210 degrés au four. J'aime beaucoup le résultat obtenu. On conserve la gourmandise du modèle sucré, mais il y a quelque chose de beaucoup plus brioché. On s'approche d'un peu ce côté scones, avec un beau contraste, avec une croûte très croustillante.
C'est une vraie réussite, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez autour du plateau ?
C'est délicieux et ça garde ce côté un peu sablé aussi, je trouve.
Oui.
Et ça fait penser aussi un petit peu aux gougères, en plus du scones.
Oui,
oui c'est vrai, mais il y a un côté très aérien. Les anglo-saxons diraient fluffy. Je suis désolé, on va arrêter avec les... Mais parfois, il y a des mots... je suis pas très fan d'anglicisme, mais il est vrai qu'ils ont un répertoire pour décrire les textures qui est assez étonnant.
Moelleux, ouais.
Et c'est moelleux, mais avec cette petite croûte craquante. Et puis ce goût est extraordinaire, vous en pensez quoi ?
On sent bien le sarrasin, on sent bien tous les ingrédients, c'est excellent.
C'est la farine de sarrasin de Philippe Guichard, qui est dans le Lot-et-Garonne, qui fait une farine exceptionnelle.
Absolument, okay. Fabuleux. Franchement, bravo, belle réussite, bravo à vous Manon, avec votre chef Lorraine, pour cette très bel exemplaire de cookies salés. La recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Cookie, nouveau totem des gourmands partout en France. On vous le raconte et on le cuisine avec nos invités Maëva Manchon et Charles Yé de la boulangerie-pâtisserie Union à Paris qui font, vous l'aurez compris, un cookie, des cookies exceptionnels. Notre historien Loïc Bienassi, notre chef Manon Fleury et notre reportrice Zazie Tavitian.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Chers amis, j'aimerais vous faire goûter un cookie qu'un jeune auditeur nous a recommandé. Allez-y, c'est à l'aveugle. Un petit morceau circule dans vos assiettes. Vous en pensez quoi ?
Ah.
Alors ?
C'est un goût de caramel.
Ouais.
Déjà, les servies tièdes. Je veux savoir à froid. Mmh.
Alors, vous aimez ou pas ? Bon, les bouches sont pleines.
Ouais, c'est très chouï.
Oui, ça colle.
C'est pour ça, ça colle aux dents.
Mais vous mettriez quelle note ? Non, mais soyez sincère. Il n'y a pas de piège.
Alors, on peut dire que c'est un peu de la triche parce qu'il est chaud.
Ah.
Mais franchement...
Alors ?
Bah, je trouve qu'on s'éloigne un peu du cookie américain pour le coup.
Il y a
quelque chose de plus. Il y a une croûte qui est assez croustillante, c'est moelleux à l'intérieur, mais c'est moins épais. Donc il y a un rapport. Voilà, il y a des éclats de caramel, je crois. Un peu ?
Ouais, caramel, chocolat.
Chocolat, ok. Chocolat au lait,
c'est sucré aussi.
Ouais, très sucré.
Ouais, très sucré.
C'est le chocolat qui est très sucré.
Trop sucré, si je peux me permettre.
Il y a presque un goût un peu. Indus, quoi.
Il est démasqué. Vous voulez la réponse ?
Ouais.
C'est parti.
Qu'est-ce que tu préfères à la fac ?
Le crous. Les cookies sont trop bons. J'ai juré.
J'ai juré, si vous avez jamais goûté les cookies, mes pépites de chocolat, pas les tout chocolatées, hein, les pépites de chocolat.
Mais tu les as trouvées où, Selena ?
Pépites au crousse.
Le cookie du Crous, un biscuit phénomène, c'est devenu un peu le coupe-faim préféré des étudiants. C'est même parfois leur pause déjeuner, pour être honnête, parce qu'il est généreux. 106 grammes, il coûte seulement 1,90€. Et vous avez raison, Maëva, en effet, vous avez reconnu l'origine industrielle. C'est un cookie aux pépites de chocolat au lait, qui est vendu dans son sachet en plastique avec quand même quelques gros mots sur les ingrédients: de la poudre de lait, lécithine de soja, de l'arôme naturel de vanille, de l'amidon blé. Alors, pas d'huile de palme, pas de conservateur, ok. Mais ce cookie est devenu une véritable vedette des réseaux sociaux. C'est un peu le truc des étudiants. Et le truc, c'est aussi de l'assouplir, effectivement, au micro-ondes. Voilà. Merci à Léonard de nous avoir mis sur la voie du cookie du Crous. Justement, Loïc, c'est par l'agroalimentaire que la plupart des Français ont découvert le cookie. Et d'abord, c'était quand ?
Alors, on pourrait dire 85, mais c'est sûr. La date à retenir, c'est 85 pour le cookie en France. Mais de toute façon, il y a un lien entre industrie et cookie, dans le sens où, quand je parlais du cookie, de l'origine de Wakefield, c'est aussi un partenariat avec Nestlé qui l'a rendu populaire aux États-Unis.
Et, oui.
Et là, en France, clairement, ce qui lance le cookie, donc, on est en 85, l'alsacienne, avec les cookies Boogie.
Mais oui.
Et puis,
moi,
cookie de Belin.
Ça
vous dit quelque chose, Marie.
Parce qu'il y a des cookies de Belin la même année. Moi, j'étais plutôt cookie de Belin, pour dire les choses. Et surtout, 86, Hello de Lou.
Hello de Lou, bien sûr.
Voilà,
la pub est célèbre.
Et donc là, la machine est lancée. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en 85, on a aussi, c'est peut-être plus anecdotique, mais la marque Laura Todd, qui s'installe alors, du côté des Halles, une boutique du côté des Halles. Et 85, on a aussi le premier ouvrage publié en français, où on trouve cookie dans le titre, qui s'appelle « Cookie et dessert des USA » par une étudiante américaine qui s'appelait Bridget Miner. Et donc, c'est là pour la première fois un ouvrage qui traite des cookies. Et petite remarque en passant, elle reprend assez largement d'ailleurs la recette originelle de Wakefield, donc on va dire la première recette américaine. Mais cette première recette américaine, ce sont des petits cookies plutôt craquant, c'est pas l'image qu'on a des cookies.
Mais oui, parce
américains.
Que moi je me souviens par exemple du cookie de Lu, c'était vraiment un biscuit croquant, il n'y avait pas du tout de cœur moelleux.
Mais souvent on oppose quand même, on va dire les biscuits un peu à la française, donc, et notamment industriels, mais pas seulement, ceux aussi qu'on trouve dans les boulangeries qui sont souvent un peu craquants comme ça, croquants, un peu sablés, et puis le biscuit à l'américaine, alors là je vais pas reprendre tous ces mots de chewy, gooey et tout ça, mais voilà, et où il y a cette souplesse, on va dire. Et il y a souvent cette opposition, peut-être France-États-Unis, quoi.
Il existe une école du cookie craquant aux États-Unis ou c'est vraiment cœur mou du outre-Atlantique ?
Je pense que j'en ai vu une fois. C'était dans un restaurant à LA qui s'appelle John Evini's, qui font vraiment une cuisine un peu italienne, italo-américaine.
Et le
cookie est plutôt sablé, ouais.
D'accord.
Mais ils s'amusent beaucoup autour de leur
cookie. Ils faisaient des cantucci en fait, non ?
Ah ouais.
C'est ça.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Au rayon cookies Asie, vous allez nous parler de cette recette, mais sous une autre forme.
Et oui, je vais vous parler de la glace aux cookies, fabriquée par une paysanne glacière, Mathilde. Alors, j'avais entendu dire que ces glaces étaient délicieuses, et vous me connaissez, François-Régis, je fais mon métier avec beaucoup de sérieux.
Oui, bien sûr, donc, je connais votre gourmandise aussi.
J'ai donc voulu aller vérifier par moi-même, j'ai pris le train jusqu'à Redon, en Loire-Atlantique, où Mathilde m'attendait pour m'accompagner jusqu'à sa ferme, la ferme Saint-Yves, qui se trouve précisément à Avessac. Et là, je lui ai demandé de me raconter en quoi consistait le métier de paysanne glacière.
Je suis paysanne, j'élève des vaches laitières, donc je récupère le lait que les vaches ont produit le matin et je les transforme après en glace. On est producteur chez Biolay et en face, à gauche, là, on a l'atelier de transformation des glaces.
Et les vaches, elles sont où là ?
Les vaches, là, elles sont au pâturage. On travaille ce qu'on appelle le croisement trois voies. Donc l'origine du troupeau, c'était des Primolstein, donc des vaches, les noires et blanches qu'on voit pas mal. Et on a travaillé sur cette génétique-là en les croisant en Montbéliarde. Et ensuite, ces mères-là, on les recroise en Jerseyaise. Donc plutôt des plus petits formats, un peu plus rustiques. L'idée, c'était pas de décimer 60 bêtes en se disant on va travailler avec telle espèce. C'était plutôt de travailler avec l'existant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et la qualité du lait en termes de valeur protéique, de matière grasse, etc.
J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble.
Eh bien, c'est parti.
Alors, on l'entend, les vaches étaient très heureuses de gambader dans les prés parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Donc là, il faisait beau ce jour-là. Et donc, le système dont parle Mathilde, des races trois voies, est intéressant car il raconte aussi une histoire de l'agriculture française. Ce sont les grands-parents de Johan, son conjoint, qui se sont installés ici dans les années 60. Johan lui a repris la ferme de ses parents en 2010. Ses parents vendaient le lait à la coopérative. Johan, lui, il est passé en bio pour des raisons écologiques, mais aussi avec l'idée d'améliorer la qualité de son lait et de le transformer pour mieux le valoriser.
C'est là qu'intervient Mathilde et ses glaces, Zazie.
Oui, exactement. Mathilde, elle a eu cette idée à son arrivée en 2014. Elle a décidé de se former 2 ans auprès notamment de champions du monde glaciers, comme Gérard Thorin. Elle a également fait l'école de chocolaterie Alain Ducasse, car elle voulait vraiment créer ses propres recettes, notamment celle de la glace à la vanille, la base pour notre glace aux cookies que nous avons préparée ensemble dans son atelier.
Alors, on va peser le lait. Le mettre dans le pasteurisateur avec la crème et les jaunes. Ensuite, on va lancer le pasteurisateur qui monte en température. À 35 degrés, je vais intégrer la poudre de lait. À peu près 40-42 degrés, je vais intégrer les différents sucres en terminant toujours par ce mélange-là. Donc ça, c'est ma pectine mélangée avec 3 fois son poids en sucre. Et une fois que ça aura atteint les 87 degrés, ça va descendre très vite à 4 degrés.
Donc là, on est parti, on a laissé la glace se faire, se pasteuriser.
La glace est neutre et du coup là je vais incorporer la vanille. Donc là tout le grain est précieux. On a préparé Pauline, la turbine à glace artisanale.
Tu mets la glace à la vanille dans la turbine et ensuite on va la transformer en notre glace aux cookies quoi.
C'est ça, glace cookie.
Comment tu l'as créée ?
Alors, au-delà des glaces, on fait aussi de la chocolaterie. Et on fait un Toblerone maison à base de noisettes et d'amandes qu'on va écraser, qu'on va torréfier, qu'on va caraméliser et chocolater. Cette base de préparation-là, on l'a mixée au blender pour faire une poudre très très fine. Ensuite, j'ai préparé un caramel maison à la crème et à la fleur de sel de Guérande. Et du coup, on fait un peu de caramel, un peu de mélange chocolat fruits secs, re-glace vanille, etc. Et on fait un montage.
Donc là, la glace sort. Oh, wow. Là, on est sorti, on mange notre glace, mais ce qui est dingue, c'est le goût du lait, quoi, aussi.
Bah, on sent vraiment le côté entier du lait fermier. Et moi, ça me fait vraiment penser aux cookies, tu vois, quand ça croque. T'as le petit chocolat, tu sens l'amande.
Ce qui est bien, c'est qu'on a encore 2,5 litres à manger pendant l'émission.
Ouais, j'espère que vous allez vous régaler.
La durée de vie... De ces 2,5 litres, à mon avis, est assez faible.
Oui.
C'est exceptionnel. Quelle expérience. Les coupes, elles sont vides, d'ailleurs.
C'est vraiment trop bon.
Maëva ?
La vanille, le croustillant, le caramel. Le caramel est incroyable. Mais on sent bien on sent bien la vanille. Je ne sais pas la provenance de la vanille, mais là, c'est
Madagascar.
La vanille, elle vient en direct d'un producteur de Madagascar en commerce équitable. Et tous les produits, je précise, sont bio.
Mais c'est ça qui est incroyable.
Mathilde, elle travaille aussi le plus localement possible. Ses fraises pour la glace aux fraises, c'est des fraises bretonnes. Elle travaille aussi avec des distillateurs locaux pour son basilic ou sa verveine, par exemple. Donc tout est très bien sourcé.
Mais où est-ce qu'on peut les acheter, les glaces de Mathilde ?
Donc ça, c'est le moment où les auditrices et les auditeurs vont me détester, car la ferme Saint-Yves, produit cette glace aux cookies que pour des événements particuliers. Mais ceci dit, tous les autres goûts comme la vanille ou encore marron whisky, avec encore une fois des marrons très bien sourcés, du whisky local breton, sont disponibles soit à la ferme directement le vendredi après-midi à l'heure de la traite, soit dans tout un réseau de magasins bio. Il y a aussi des bâtonnets qui sont délicieux. Et toutes les infos sont sur le site fermesaintyves.fr et on vous les remet sur la page de l'émission.
Et Mathilde, ainsi que sa fille Nina sont présentes dans l'émission et dans le studio 611 de la Maison de la Radio. Franchement, applaudissements pour cette glace absolument... c'est phénoménal, hein. Ouais. Franchement, et en plus c'est parfaitement vertueux. Allez, on va jouer un peu les amis. Des hybridations pâtissières plus ou moins inspirées sont apparues, vous le savez, sur la scène sucrée. Avec quelle autre spécialité le cookie est marié dans un brookie ?
Le brownies.
Ouais. Dans un croquis.
Croissant.
C'est le croissant.
Et je parle d'inventions qui ont vraiment. Qui existent, hein. Le fonky.
Ah, c'est un fondant d'un peu là.
Ouais. Attention, plus dur. Le cookie strelli.
La stracciatella, non.
Bravo. Canistrelli corse.
Ah oui.
Avec des pépites. Ça donne un cookie strelli. Le cookie misou.
La
tiramisu. Bravo. C'est quand même un cookie au tiramisu. Le flanqui, ça c'est notamment pratiqué par le grand Christophe Michalak.
C'est une pâte à... Enfin, c'est flan du flan, quoi.
Bravo.
Mais c'est une pâte cookie flan, du coup.
Exactement, cookie flan. Tarte qui?
Avec une tarte.
Une tarte.
Voilà, ça, c'est une tarte cookie. Alors, il y a la pizza cookie de Cédric
Doré. Ah oui, pizza.
Voilà. Mais il n'y a pas encore de nom ou de hybridation absolument. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une source d'inspiration à partir du cookie qui est absolument dingue sur la scène pâtissière française. Deuxième recette, cookie plat.
Cookie plat.
La différence, comment vous y prenez, chère Maëva?
Tout simplement, on va venir faire fondre le beurre et carrément, on va le faire roussir. On va le laisser bien refroidir. C'est hyper important. Ensuite, on va prendre sa cuve de robot, on va le mélanger avec le sucre.
Mm-hmm.
Donc ça va presque faire fondre un petit peu le sucre. Ensuite, on rajoute nos poudres, nos œufs et ce qu'on veut à l'intérieur.
Et là, en l'occurrence,
noix de macadamia, chocolat blanc. Pareil, on boule, on met au frigo une nuit ou 2 heures au congélateur. 175 degrés, 13 minutes. Oh. On n'oublie pas la fleur de sel, très important.
Complètement dingue, celui-là.
Merci.
Alors là, il y a des petits bourrelets à l'extérieur, légèrement croustillants.
C'est ça.
Et puis ensuite, à cœur, c'est tout moelleux. Il y a évidemment le relief formé par les noix de macadamia que vous laissez là encore complètement entière.
Ouais, entière.
Waouh.
On sent le rapport beurre-sucre aussi qui croque un peu sous la dent. C'est hyper agréable.
Les questions se bousculent sur notre mail. Pardon, j'ai la bouche pleine. Vas-y. Et également sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter.
On croule sous les messages aussi. Beaucoup, beaucoup d'adresses. Mais une question qui revient pas mal, c'est est-ce qu'il existe des cookies véganes et des cookies sans gluten?
Ah, question importante, Charles et Maëva.
Alors oui, on peut en retrouver dans des magasins un peu spécialisés. Je sais que Lens & Monkeys, ils font un sans gluten. Mm-hmm. Ensuite, je vois que sur Paris... t'as des idées, Charles?
J'ai pas trop d'adresses de véganes.
Et sans gluten? C'est une demande qu'on vous fait régulièrement de la part de vos...
Sans gluten, on commence à avoir pas mal de demandes, ouais.
Mais on le fait pas forcément parce que c'est assez difficile à réaliser si on veut suivre une éthique quand même assez rigoureuse.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on n'a pas d'ersatz de matière grasse autre que le beurre. Il faudrait d'autres matières grasses végétales, mais qui sont très onéreuses. Ouais. Donc nous, on préfère faire du beurre.
Et parfois ultra transformé, il faut bien le dire.
Ouais, exactement, ouais,
c'est pas simple. Exactement. Donc c'est pas simple. Nous, on a le parti pris de travailler des produits naturels, simples, d'origine animale. Mais c'est vrai que faire un cookie vegan sans les œufs, sans le beurre. Ouais, je sais pas comment on pourrait y arriver.
C'est un beau défi.
Zazi, d'autres réactions ou pas?
Alors, on me donne quand même une adresse de cookie vegan chez Pooch à Montreuil, donc à tester. Et après, ce qui est vraiment adorable, c'est que de tout âge, j'ai Milo, collégien, qui s'achète des cookies à la boulangerie de Tabor à Rennes. Mm-hmm. On me dit chez Bébé à Agen, il faut absolument goûter les Simonettes à Agen, pardon, pas Agen. Voilà, donc il y a tout un tas de recettes, peut-être qu'on pourra les réunir et les mettre sur le site aussi de l'émission.
Bien sûr.
Ça, parce qu'il y en a plus d'une trentaine qu'on nous donne.
Et je rappelle qu'il y a notre banc d'essai avec quand même de très nombreuses adresses et 11 coups de cœur dans toute la France. Preuve que le cookie, encore une fois, n'est pas qu'un phénomène parisien. Le mot de la fin, Loïc?
Le mot de la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une thèse en biologie qui récemment a été soutenue, qui dit qu'il y a 178 types de cookies commercialisés. Je parle de l'industrie.
Extraordinaire.
Désolé, je reviens à l'industrie. Pour dire à quel point c'est quand même un phénomène massif et que ça représente 4,5% des petits gâteaux consommés en France.
Ah oui.
Et c'est un marché en croissance, donc c'est pas rien.
Un business qui pèse. Vive le cookie, en particulier celui d'Union. Merci beaucoup, Charles et Maëva, d'être venus jusqu'à nous de Rue Bleue, Paris 9e. Vous allez avoir pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui vont venir vous voir. La semaine prochaine, attention, on va déguster, débarque dans la capitale de l'Alsace, Strasbourg, avec nos invités sur place, avec Jérôme Gagnès et Céline Maguet. L'émission sera en direct et en public depuis la Cité de la Musique et de la Danse. Vous êtes évidemment les bienvenus pour y assister dans la limite des places disponibles. Et à 18h, dans le même lieu, vous pourrez assister au grand dimanche soir de l'ami Charline Vonnenacker et toute sa troupe. À dimanche prochain. Hop là, si vous avez encore faim,